Bonjour, bonjour, Yves au micro, très très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de 24 notes secondes qui ne dérogera pas plus que les précédentes à sa tradition et qui par conséquent vous rappellera ou vous apprendra que 24 notes secondes est une émission consacrée à la musique de film, à cet art si particulier qui consiste à illustrer de manière sonore ou musicale les petites images qui bougent, parfois de manière improbable, parfois de manière probable, mais évidemment dans 24 notes secondes nous ne sélectionnons pour vous que le meilleur. Et ce jour, dans 24 notes secondes, eh bien, nous allons évoquer la carrière d'un compositeur de musique de film, mais il n'est pas que américain, Nelson Riddle, qui n'est certainement pas l'un des plus connus des compositeurs qu'on a eu l'occasion d'évoquer au micro de 24 notes secondes, mais qui aura quand même eu une carrière assez intéressante. Il faut dire, et c'est ce qui explique peut-être qu'il n'est pas très connu comme musicien de film, qu'il était avant tout arrangeur, compositeur, orchestrateur, et qu'il a travaillé avec quelques personnalités dont les noms vous diront peut-être quelque chose. Je cite au hasard, dropping name, on appelle ça, Frank Sinatra, Ella Fitzgerald, Nat King Cole, Judy Garland, Dean Martin, Johnny Matisse, etc., etc. Bref, soyons clairs, c'est plutôt pour son travail en tant qu'arrangeur et compositeur qu'en tant que compositeur de musique de film que Nelson Smoke Riddle Jr., le 1er juin 1921, restera connu. Malgré tout, ce n'est pas cet aspect-là, arrangeur-compositeur, de sa carrière que nous allons évoquer, mais bien sa carrière cinématographique. Et on va commencer en écoutant un extrait de la bande originale d'un film tourné en 1957 par Mitchell Lison. Alors, je ne l'ai pas vu, donc je ne pourrais vous dire guère plus que ce que me dit ma petite fiche. Un film intitulé en français « Une fille qui promet » et en anglais « The Girl Most Likely » dans lequel on trouvait dans les rôles principaux Jane Powell et Cliff Robertson. Alors l'histoire est celle d'une jeune fille qui veut épouser un millionnaire. Ma foi, une petite comédie sur le mariage comme on en tournait beaucoup dans les années 50, comme on en avait tourné beaucoup aussi entre les deux guerres aux États-Unis. Je n'en dirai pas plus parce que pourquoi dire du mal de films qu'on n'a pas vus ? Ce serait désagréable. On va plutôt écouter un extrait de cette bande originale, Une fille qui promet, Nelson Riddle dans 24 notes secondes.
We gotta keep up with the Joneses.
The Joneses?
The Joneses. We gotta keep up with the Joneses. The Joneses have a ball.
Oh.
We gotta make bucks by the hundreds.
The thousands.
The millions.
We gotta make bucks by the millions or we won't raid at all. So it's noses to the grindstone. That's our battle call. And it's shoulders to the wheel or we'll have backs against the wall. We gotta keep up with the Joneses,
the Joneses,
the Joneses.
Our fingers will work to the bones, 'cause
every day in every way we gotta make hay so we can say we can keep up, gotta keep up with the Joneses, 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 Joneses.
We are the Joneses, the wealthy Joneses.
We gotta stop the Joneses. We gotta top the Joneses, or we're lost.
We gotta keep up with the Joneses.
They're richer, they're fatter. So stop the chitter chatter and show them up, no matter what the cost.
We gotta keep up with the Joneses.
We have two yachts.
We'll buy three. We'll buy them longer,
longer,
leaner,
leaner,
speedier,
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 speedier.
If they buy.
We buy three.
And if they're greedy, we'll be even greedier.
Greedier!
Gotta have a yacht,
gotta have a car,
gotta have a car
and a chauffeur too.
Gotta have a yacht,
gotta have a car,
gotta have a car
and a chauffeur too.
Gotta have a yacht,
gotta have a car,
gotta have a car
and a chauffeur too.
Never yet!
Gotta have a car,
gotta have a car
and a chauffeur too.
Never yet!
Gotta have a car,
gotta have a car
and a chauffeur too.
We have two cars,
we'll have three cars,
we have four cars,
we'll have five cars,
we have six cars,
and oh well.
Oil well, pumping, 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 pum
mines.
Coal mines. Digging, 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 digging,
Wall Street.
Digging, digging, coal mines.
Stocks and bonds.
Real estate.
Digging, coupons.
Oil wells.
Coal mine.
Money.
Money. Gotta keep up, make more money.
Ah bah oui, mais ça ressemble même à une comédie musicale, mais j'avoue, hein, j'avais pas vraiment potassé sur le truc. Bah ouais, des fois ça arrive, une fille qui promet, le dernier film de Mitchell Leisen, tourné en 1958. Alors ses voix, on aime ou on déteste, des fois il y a des gens qui aiment pas du tout, je reconnais. Mais on peut supposer au moins qu'il y avait Jane Powell, pardonnez-moi, parmi les chanteurs et chanteuses. Cliff Robertson, c'est moins sûr, parce qu'il n'a pas été... connu après pour avoir fait une grosse carrière dans la comédie musicale, mais Jane Powell, oui. Et donc la partition de ce musical, on dit en anglais, eh bien, elle est co-signée par plusieurs personnes, dont Nelson Riddle, qui est notre héros du jour. Alors pendant que vous écoutiez ou pas la musique, eh bien moi je consultais un peu mieux mes petites fiches, et effectivement, la carrière cinématographique de Nelson Riddle, c'est une Nelson Riddle. Pardonnez-moi, c'est une toute petite partie d'un édifice majestueux où donc il a longuement collaboré avec toutes les personnes citées, et non des moines, Judy Garland, Frank Sinatra ou Nat King Cole. Néanmoins, on va rester dans notre ligne, mais on va quand même faire un tout petit écart, puisqu'on va écouter un extrait de la bande originale d'une série télévisée. Alors, je ne sais pas, évidemment, aux jeunes, ça ne rappellera rien. Aux autres, on va voir. Mais en tout cas, ça donnait ça. Ça vous a rappelé ou non quelque chose, mais c'était bien un extrait de la bande originale des Incorruptibles, The Untouchables en anglais, et une série télévisée policière américaine qui se passait à Chicago au temps de la Prohibition. Et ceux qui se souviennent de la musique se souviennent forcément de Robert Stack, qui incarnait le rôle du dur des durs, plus dur que moi, tu meurs et je ne souris jamais, Elliot Ness, qui pourchassait le crime tout au long, excusez quand même du peu, d'un pilote de 90 minutes et de 118 épisodes. épisodes de 50 minutes. Alors je sais évidemment maintenant des séries qui ont 118 épisodes, c'est des séries qui ne marchent pas parce que ça veut dire qu'elles se sont arrêtées en cours de route. Mais à l'époque, 118 épisodes en noir et blanc, eh bien ça faisait quelque chose. Une série créée par Quinn Martin, diffusée pour la première fois, si vous voulez tout savoir, entre le 20 avril 1959 et le 21 mai 1963. Mais même moi, ce n'est pas à cette époque-là que je l'ai vu, bien plus tard, quand ça passait, repassait, repassait encore. Et vous savez, Elliot Ness, il avait cette espèce de mitraillette avec un camembert au milieu. C'est absolument fascinant. Et ensuite, Brian De Palma nous a fait un film, ma foi, plus qu'estimable, avec Kevin Costner, Sean Connery, si je me souviens bien, musique d'Ennio Morricone. Mais nous en étions à Nelson Riddle, qui est donc le héros du jour et qui est donc le compositeur de ce fameux thème des Incorruptibles, comme il le sera plus tard, mais ça, je vais vous l'épargner quand même, de la série télévisée Batman. Batman ! C'est lui qui a écrit ça en 1966. Non, non, ce n'est pas la peine d'inonder le standard. Nous ne vous passerons pas ça. Il y a quand même des limites qu'on ne franchit pas, même dans 24 notes secondes. Et à propos de limites, on va vraiment changer complètement puisqu'on va écouter un extrait de la bande originale d'un film de Stanley Kubrick tourné en 1962. Ça s'appelle Lolita et comme nul parmi les lettrés auditeurs de 24 notes secondes ne l'ignore, c'est l'adaptation par lui-même d'un roman de Vladimir Nabokov. Un roman dont c'est peu dire qu'il suscita à sa sortie le scandale, tout comme le film d'ailleurs. Une histoire carrément pédophile d'amour, mais peut-on parler d'amour ? Non. Entre un respectable ou soi-disant tel professeur incarné dans le film par James Mason et une toute jeune fille incarnée dans le film par une toute jeune fille, Sue Lyon, qui d'ailleurs ne s'en remit jamais vraiment, puisqu'elle n'eut jamais vraiment une carrière. Alors, aux côtés de James Mason et Sue Lyon, le entre guillemets grosse, couple principal, il y avait Shelley Winters et Peter Sellers, ce qui était quand même assez étonnant, Peter Sellers qu'on prisait plutôt dans ses rôles comiques. Ma foi, le résultat, comme le roman, divisa. Ce ne fut pas un des plus grands succès de Stanley Kubrick. Par contre, la musique, en tout cas, me semble-t-il, comme celle des Incorruptibles, eh bien, elle est restée un peu dans l'air du temps. On en écoute un extrait. Elle est signée Nelson Riddle dans 24 notes secondes. Thank you. un extrait de la bande originale de Lolita, un film de Stanley Kubrick tourné en 1962 avec James Mason et Sue Lyon, pardonnez-moi, dans les rôles principaux, ma foi, même si c'est Vladimir Nabokov qui en avait signé l'adaptation. On n'est pas certain qu'il ait été très fidèle, mais il avait refusé dans un premier temps, et en tout cas c'est ce qu'il a déclaré. Après, il avait rêvé qu'il était en train de lire le scénario qu'il avait écrit, donc il était obligé de l'écrire. Il y a quand même certains écrivains qui ont, disons, un esprit torturé. On va rester avec Nelson Riddle, puisque c'est évidemment notre sujet du jour. Alors, je compulse une filmographie qui n'est quand même pas des plus abondantes, mais on peut citer sa collaboration, notamment avec la Rat Pack, c'est-à-dire le fameux quatuor composé par Dean Martin, Frank Sinatra. Et c'est sans doute pas un hasard si Nelson Riddle se trouvait aussi associé au cinéma. Frank Sinatra, Dean Martin, Frank Sinatra, Sammy Davis Jr. et Peter Lawford, qu'on vit dans plusieurs films plus ou moins nonchalants, par exemple dans la première version d'Ocean's Eleven, que ensuite Steven Soderbergh nous fera, ma foi, de façon plutôt classique. Et puis, il y a aussi L'Inconnu de Las Vegas, des petits films sans grande prétention. Et on va écouter un extrait d'une bande originale. Alors, ce n'est pas toujours très facile, en fait, de trouver des bandes originales de Nelson Riddle, aussi étonnant que ça paraisse pour un compositeur qui a quand même beaucoup œuvré. Par exemple, je le mentionne incidemment avant de l'oublier, eh bien, on ne trouve pas, en tout cas pas facilement, la musique du film qui lui valut son seul Oscar de la musique de film, un film de Jack Clayton tourné en 1974. Ça s'appelle The Great Gatsby, en français Gatsby le Magnifique, évidemment une adaptation du roman de Francis Scott Fitzgerald avec Robert Redford et Mia Farrow dans les rôles principaux, qui sont mieux que d'autres que je ne citerai pas dans un film tout pourri qui a été fait depuis. Mais donc pour ce film-là, Nelson Riddle obtint l'Oscar, c'est mieux que l'Oscar, de la meilleure musique de film, mais on n'en trouve pas trace quelque part en ligne. Allez, du coup, on va se rattraper en écoutant un extrait de la bande originale de Arlo, un film tourné en 1965 par Alex Segal. Alors, Arlo, c'est Jean Arlo, qui fut une grande actrice des années 30, mais un peu trop provocante pour le système hollywoodien, qui, d'une certaine manière, la broya. Et donc, dans ce film, eh bien, c'est Carole Lynley qui eut un destin à peu près à la Sue Lyon, c'est-à-dire qu'on n'entendit plus parler d'elle très rapidement, qui jouait donc le rôle de Jean Arlo, avec à ses côtés notamment Ginger Rogers. Arlo, 1965, dans 24 notes secondes. Thank you. Un extrait de la bande originale signée Nelson Riddle de Arlo, un film d'Alex Segal tourné en 1965. Alors ma petite fille m'apprend que ce fut le dernier rôle à l'écran de la grande Ginger Rogers. Et des fois, il y a des hasards qui n'en sont pas, mais cette même année 1965 sortirent deux films consacrés à Jean Arlo, donc qui est une actrice des années 30. Il y eut donc ce film-là avec Carol Linley dans le rôle principal et un autre beaucoup plus cher avec Carol Baker dans le rôle principal, le même, celui de Jean Arlo. Ma foi, l'histoire ne dit pas lequel rencontra le plus de succès et surtout lequel était le plus fidèle à la vie de Jean Arlo, qui était vraiment une sorte de bombe sexuelle des années 30, une actrice très pétulante, très, très engagée physiquement et intellectuellement dans ses rôles, et sans doute, bien évidemment, pour le système hollywoodien de l'époque, celui des studios très codifiés, tout ça, code ICE, évidemment beaucoup trop libre pour pouvoir le rester très très longtemps. C'est souvent le drame des esprits forts. Et on va se quitter en écoutant évidemment un extrait de la bande originale d'un film. Nelson Riddle, quant à lui, nous aura quitté le 6 octobre 1985, donc il était encore très très jeune, mais bon, le destin ne se commande pas, il aura fait peu d'autres films importants après ce qu'on a évoqué, mais il y a quand même deux films signés par Howard Hawks. Alors le premier s'appelle Ligne Rouge 7000 en français, oui, Red Line 7000, si vous le voulez vraiment absolument, en anglais, un film consacré aux coureurs automobiles. Personnellement, j'ai toujours trouvé nul, mais qui apparemment est encensé par les critiques des cahiers du cinéma et autres, allez savoir. Et un autre film, alors lui, vraiment exceptionnel, Howard Hawks n'a pas tourné beaucoup de westerns, mais ceux qu'il a tournés sont exceptionnels. Il y a eu La Rivière Rouge, il y a eu La Captive aux yeux clairs, il y a eu Rio Bravo, il y a eu Rio Lobo, et puis il y a celui duquel on va écouter un extrait de la bande originale Eldorado, qui d'ailleurs doit beaucoup à Rio Bravo, de même que Rio Lobo, qui est le dernier film d'Howard Hawks, vous suivez jusque-là, doit beaucoup à Eldorado. Et bien, comme le disait Howard Hawks, il n'y a pas de western nouveau parce qu'il n'y a pas de sujet nouveau. Tout ça est une histoire de changer les relations entre les personnages. Et ma foi, c'est bien vrai. Tous les sujets ont déjà été tournés, c'est la façon de le faire qui change. Il faut dire qu'il avait, pour la circonstance, Howard Hawks devant sa caméra John Wayne. Comment imaginer un western sans John Wayne? Mais il paraît qu'il y en a qui ont été tournés et dans lesquels il ne jouait pas. À ses côtés, Robert Mitchum, qui était un acteur installé, et James Caan, qui lui, en 1967, était quand même tout jeune. Ma foi, le résultat est quand même très intéressant, très nonchalant, comme le souligne Howard Hawks. Il s'agit plutôt de la relation entre les personnages, qui sont essentiellement des mâles, il faut bien le reconnaître. Mais ma foi, une fois qu'on a accepté ce parti pris, eh bien on rentre, je dirais, dans ce récit. Et évidemment, ce récit, il est accompagné d'une musique de Nelson Riddle que vous allez peut-être reconnaître parce qu'elle-même est inspirée d'air mexicain bien connu. Un extrait donc de la bande originale d'Eldorado, Howard Hawks, Nelson Riddle, 24 autres secondes. Thank you. Voilà, 24 notes secondes, c'est fini pour aujourd'hui. Au revoir, à bientôt, see you,
bye bye.